bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kaddour Boutali, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Tanguy Passuro sera là tout à l'heure, Guillermo Guiz, et nos invités, Céline Sciamma et Noémie Merlant.
Bonjour, merci mille fois de venir à ce micro toutes les deux pour ce film que nous avons adoré, Portrait de la jeune fille en feu. Le film sort aujourd'hui, donc déjà merde pour la sortie du film.
Mais il est sorti là.
Et... Oui, c'est vrai que c'est les premières séances sont à 9h, c'est ça ?
À Paris, ouais.
À Paris, c'est très parigot ce qu'on fait.
Ouais.
Mais sinon on va au cinéma à 14h, normalement. Donc le film sort aujourd'hui, c'est un film à voir absolument. On va en parler dans quelques instants, mais c'est une... juste pour situer le contexte, on est au 18e siècle, un peu avant la Révolution. C'est une demoiselle qui est promise à un mariage et il faut faire ce portrait pour, entre guillemets, convaincre le mari, mais elle refuse de se... Elle n'accepte pas d'être peintre.
Opposée, ouais.
Voilà, donc il faut qu'il y ait une peintre qui arrive, jouée par Noémie Merlant, et qui va par son observation, son regard affûté, imprégner toutes les courbes, tous les dessins dans son
mais qui ment au départ, qui se fait passer pour une dame de compagnie.
Exactement.
Pour attraper les traits,
pour ensuite peindre, et elle va faire sa toile, voire plusieurs toiles de ce portrait. Mais c'est surtout un film à la fois
magnifique, d'amour, tout ce que j'aime.
Évidemment, c'est un film d'amour, c'est un film sur les femmes qui décident de la liberté de leur corps et de faire ce qu'elles veulent de leur corps, d'aimer qui elles veulent. Et puis c'est un film sur la création, c'est un film sur le rapport qu'il peut y avoir entre la muse et l'artiste aussi. Et puis c'est un film sur... C'est votre talent, Céline, c'est un truc de dingue, je pensais pas encore que ce soit possible, mais chaque cadre...
Il y croyait pas, hein,
chaque cadre est une toile de peinture, ouais. C'est ça qui est dingue, chaque scène, chaque lumière, cadre, jeu. Alors vous avez deux comédiennes sublimes qui sont vos muses, on parlera d'ailleurs des rapports qu'il y a entre vous et les autres. Mais d'abord, pour l'instant... des questions.
Ah, tu gâches tout, c'est bien.
Ouais, c'est ça. Ça commençait bien, Villa. Ouais.
Crac. Bon, c'est débarrassant.
Pour, à quoi servait l'argent que Céline Sciamma, adolescent, gagnait pendant ses babysitting?
Acheter des, aller au cinéma.
Non, acheter.
Tu voulais dire un truc, Tom? Vas-y, essaye.
Du matériel.
Eh ben non. Non, non. Acheter des places de cinéma. Vraiment.
Oui. Un abonnement cinéma, 260 francs, les 10 places.
Vous avez encore tarif en tête.
Ah bah ouais.
Et vous vous souvenez combien vous preniez de l'heure de babysitting à l'époque?
Ah, je me souviens pas exactement, non.
280, ça laissait juste assez pour les classes.
C'était à 10 balles, 10 balles de l'heure?
Je me souviens plus.
Peut-être moins.
Mais je crois que j'étais pas cher.
Et comment vous faisiez connaître dans le quartier? C'était famille, amis ou des petites annonces à la boulangerie?
Non, totalement babysitting de proximité. J'avais vraiment la porte à côté. À côté de moi, vivait une famille avec 7 enfants. Donc c'était. J'ai pu faire une grande cinéphilie grâce à ça.
Noémie Merlant, quelle grande comédie romantique elle a découverte à l'âge de 9 ans au cinéma. Ça a totalement bouleversé sa vie.
La
grande vadrouille. Évidemment, oui. Ça bouleversait ta vie.
Quand Harry rencontre Sally.
Elle n'était pas née, elle, quand la grande vadrouille était au cinéma. Pardon ?
Quand Harry rencontre Sally ?
Non.
C'est français ?
Non. C'est mondial.
Pretty Woman.
Guillermo, tu es avec nous aujourd'hui ou tu es en stage ?
Non, mais c'est pas n'importe quoi. Avant de parler, je réfléchis d'abord.
Oula !
Non, mais je sais pas.
Un accident est arrivé.
Il se passe des choses en 2019.
Comédie romantique.
Bouleversée, ouais.
Si je
peux me permettre, vous n'avez pas été la seule à être bouleversée par cette
Titanic.
Comédie.
Titanic, deux points pour Kaddour.
C'est un film, ça?
Titanic.
Le prochain.
Est-ce que vous avez découvert quoi? Plus que les grandes productions, c'est les grandes émotions dans ce film? Qu'est-ce qui vous a touché?
Mais c'est mon premier souvenir de cinéma. Et en fait, il y avait cette frustration de ne pas pouvoir le voir parce qu'il y avait une queue énorme. C'était un petit cinéma d'une ville de Rezé. Et je n'arrivais pas à le voir. Donc, j'ai attendu des jours et des jours avant de pouvoir le voir. Et quand je l'ai vu...
C'était pas terrible.
j'étais amoureuse.
En tout cas, il y a deux leçons dans ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a la montée du désir qui a sûrement rendu le spectacle encore plus fort que si vous l'aviez vu presque par hasard à la télé. Vous avez retenu, il y a une scène, est-ce que c'est toujours les mêmes scènes que l'on retient quand on a aimé Titanic?
Non, il y a pas. Y a
ou
pas...
Est-ce que c'est le jeu de Kate Blanchett? Est-ce que c'est, est-ce que vous êtes identifié?
Kate Winslet.
Pardon. Est-ce que vous êtes identifié à la comédienne? Ou... est-ce que De Niro? Est-ce que la poursuite de voiture vous a choqué ou pas?
Non, j'avais envie d'être sur ce bateau, bizarrement.
Voilà. Et de couler.
Et de couler.
Et de vivre l'amour dans la voiture, non? Adolescente. Tiens, on va rester dans l'adolescence. Quel genre de film Céline Sciamma faisait-elle tourner entre guillemets à sa petite sœur?
Horreur.
Exactement.
Ah, les enfants, c'est dur.
Faut aller plus vite, Daniel, hein, tu l'avais aussi.
Mais j'ai un problème avec ma bouche, la mâchoire inférieure.
Ouais. Film d'horreur, ça veut dire que vous inventiez quoi? Des scénarios qui faisaient peur?
C'était l'histoire de frères et sœurs qui se promenaient dans la rue, qui rentraient dans une maison dont la porte était ouverte et qui étaient tués par un esprit frappeur, parce qu'il n'y avait que deux acteurs, donc elle était tuée par une force invisible, elle chutait dans les escaliers et il fuyait. C'était quasiment un plan séquence. C'était...
Vous êtes allé voir un psy depuis?
Bien sûr.
Vouloir tuer son frère et sa sœur, c'est quand même pas naïf. Vous avez combien d'écart d'âge entre vos frères et sœurs?
3 ans et 7 ans.
3 ans, 7 ans. Oui. Et vous étiez donc là. Alors, l'idée de mettre en scène, c'est-à-dire de jouer quand on est enfant en disant « toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça », c'est une chose. Mais de les diriger presque en étant déjà réalisatrice ado, c'est particulier.
Vous croyez?
Je donner crois que des
c'est...
ordres.
Je crois, ouais, c'est... diriger, c'est pas trop donner des ordres, hein. Enfin, c'est surtout.
C'est quoi la nuance alors?
Noémie rigole. Là, sur le...
je continue de le penser d'ailleurs maintenant que je suis directeur. C'est pas assez. Non, diriger, c'est animé. C'est animé, c'est être une espèce de chef d'équipe. Et moi, je suis l'aîné, donc de toute façon, j'étais en responsabilité de ça. Du fun là-dedans.
Noémie, rectifiée, sur le tournage, elle donne des ordres ou pas? Est-ce qu'elle dit non à certaines choses?
Ah non, c'est vrai, elle dit jamais non. Elle accompagne.
Elle accompagne.
Elle nous éveille, elle nous amène quelque part et c'est, je sais pas, elle nous prend par la main. Moi, je dirais plus que dire des noms.
Elle demande des propositions de la part des acteurs ou elle donne déjà les intentions qu'elle attend.
Elle donne les intentions déjà. Tout est
écrit.
Tout est écrit et ensuite tout est les gestes, les respirations, les regards, tout est, elle nous les donne et après c'est ce qu'on met dedans, c'est la manière dont on va les balancer quoi. À chaque fois là on a notre liberté de proposer quelque chose même dans la contrainte.
Oui, donc c'est la contrainte amène peut-être la proposition aussi. C'est-à-dire qu'on essaye juste un peu de nuancer ce qui était écrit, ordonné en amenant un peu de soi. Qui a été à l'origine de la carrière de comédienne de Noémie Merlan?
Un acteur?
Je ne sais pas.
Le membre de la famille. Sa mère, sa tante, sa grand-mère, sa
grand-père,
papa,
maman.
Oui. Ah.
Quoi, j'ai dit mère.
Boom. Non, t'as dit mère, il a dit papa.
Ah, c'est père.
Ouais. C'est le papa. Expliquez. Je ne sais pas quel est son métier. Est-ce qu'il est comédien?
Non, pas du tout.
Ah,
non.
Voilà. Il était dans quel domaine?
Il était agent immobilier.
Ah bah, un comédien quand même.
Oui, non, c'est vrai.
Non, menteur, c'est pas vrai. C'est
pas comédien.
Et alors, comment. Il a eu une vision, vous racontez, c'est-à-dire.
Il a une vision, il m'a dit, moi je voulais faire mes études après le bac, une école de commerce, ou, enfin, j'aimais bien ça, mais bon, j'étais... Voilà. Et il me dit, oh, on n'a qu'une vie, prends une année sabbatique.
C'est le monde à l'envers.
C'est fou, ça. Si on voulait faire des études supérieures, et il dit, non, fais pas d'études, prends une année à ne rien, pas à ne rien faire, mais à faire quoi, non, à la place d'aller à l'école?
Essayer de savoir qui t'es, ce que tu veux. Il sentait, j'aimais bien faire des spectacles et tout quand j'étais petite, donc... Il sentait qu'il fallait que je fasse un métier lié à l'image, mais sans trop savoir quoi. Et puis, il a lu un article sur les cours Florent et il m'a dit « Je sens que tu devrais essayer ça. »
C'est un génie. Il faut qu'il fasse des masterclass.
Il faut qu'il devienne ministre de l'Éducation, surtout. Est-ce que c'est vrai que vous lui avez rétorqué que vous étiez timide et que vous ne vouliez pas être comédienne à ce moment-là?
Je connaissais pas bien du tout ce métier. J'étais pas très à l'aise. Et je lui ai dit non. Et il m'a un peu boostée et j'écoute souvent mon père. Du coup, j'y suis allée et j'ai bien fait de l'écouter puisque quand je me suis retrouvée sur le plateau des cours Florent, je me suis sentie pour le coup, complètement libre. Ouais.
Ouais. Pardon, vous avez des frères et sœurs ?
J'ai une sœur.
Il a eu le même, la même démarche avec elle aussi, en disant pendant un an, barre-toi, ou il a fait avec vous parce qu'il sentait qu'il y avait un terrain propice à ça.
Elle est plus grande ou plus jeune ?
Elle est plus grande. Elle est plus grande.
Et donc il a pas fait ça avec
non,
elle.
Sinon, le Louis, ça a l'air d'être un sujet délicat. Avec
okay. Elle a fait l'école de commerce.
Non, pardon, je voulais pas m'immiscer dans votre vie. Je suis vraiment désolé.
Il voulait pas, mais répondez à la question.
mais donnez-moi au moins le portable de votre sœur. adolescente, Céline Sciamma a eu une expérience à la télé. Ah, laquelle?
Elle a joué.
De culture générale.
Elle a joué. Vous avez joué à la télé?
Absolument.
Mais c'était quel jeu?
Tout vu, tout lu sur France 2. Mais ça a duré que deux saisons. J'ai gagné un épisode.
Ça marchait en plus.
C'était bien.
Ça cartonnait, c'est sur l'actualité, c'est des questions sur l'actu.
C'est l'actualité de l'année d'avant et puis l'actualité de cette année.
C'est ça?
Ouais.
Et comment ça vous a pris d'aller de vous inscrire, de faire un casting? Je sais pas comment vous
faisiez. J'étais en galère d'argent, je voulais payer mon loyer et du coup je regardais ce jeu un peu tous les jours, un peu en déprimant.
Genre à 18h.
Hein, et je voyais que j'étais douée, quoi. Je me suis dit bon bah.
J'ai tous ces crétins gagné.
Avez-vous gagné?
J'ai gagné.
Yes.
Ouais, j'ai gagné.
Qui animait?
Très bien. Je crois que c'était Bel Air. Non. Oui, c'était. Ouais. Ah, qui fait maison, machin, là,
voilà,
sur France
5.
C'est là, t'es beau.
Non, tu sors, Stéphane Plaza, tu sors.
Ah oui, si, c'est la voix off, c'était juste une voix off, c'est ça?
Je fais confiance sur les animateurs du service public.
Je suis désolé, parce qu'en plus,
il les a tous bouffés.
Je capte plus vos vannes. Je passe sous un tunnel.
Ça fait longtemps que tu captes plus rien, tu sais.
C'était Stéphane Thébault et il y avait aussi Marie-Ange Lardy qui l'avait présenté. Et ça avait été un énorme succès à l'époque. Revenons non pas sur les succès de l'époque, mais sur le succès actuel que l'on souhaite de tout cœur à votre film Portrait de la jeune fille en feu. Alors évidemment, on ne peut que penser à la jeune fille en fleurs. L'allusion est immédiate, j'imagine, non?
Ah, mais c'est on me la fait pas souvent. On pense au... Mais
c'est ironique.
Non, pas du tout.
On pense à un épisode de Millennium.
Voilà.
Non, oui, si, c'est vrai.
Non, mais oui, c'est vrai, les jeunes filles en fleurs. Bah, c'était surtout l'idée de... Bien des portraits s'appellent Portrait de la jeune fille à l'oiseau. Voilà. Là, le feu, c'est inédit.
Alors, le feu, justement, il est présent et pour, j'allais dire, les amours naissantes et aussi pour la destruction d'étoiles. C'est dans les deux sens que ça fonctionne. Est-ce que vous avez voulu faire un film sur une histoire d'amour ou sur le processus de la création?
Les deux, mais c'est vrai que ce qui le désir premier, c'est de faire un film d'amour, un grand film d'amour dédié à ça, c'est-à-dire à la fois à observer la naissance d'un désir, son épanouissement, et puis aussi la philosophie d'un amour, l'empreinte d'un amour, ce qu'il en reste.
Je vais peut-être me mettre sur silencieux, ça sera plus rapide.
Ouais,
pardon,
ça.
Pardon.
Pour ranger le téléphone.
Oui, c'est vrai. Ah, j'ai encore un texto.
Oui, c'est la direction.
C'est Stéphane Thébault. Salut Stéphane.
Merci. Ah, oui, en effet, c'est Stéphane Thébault. Rends-moi l'argent, c'est bien.
J'ai un bon 300 mètres carrés à te faire visiter, d'ailleurs.
532 euros.
Non, alors la rencontre amoureuse, vous avez alors le processus de création, on imagine bien que dans cette période où apparemment c'est de la mode de faire des portraits que ce soit des jeunes filles ou des personnages ou des personnalités, 18e siècle, on est, je disais, dans une toile.
C'est une obligation même, c'est-à-dire que le futur époux doit recevoir le portrait de sa promise.
Oui, je m'appuie là-dessus, ça, c'est sûr.
Ça c'est le prétexte, mais la période choisie, c'est parce que la lumière, l'étoile, le Vermeer, enfin je sais pas, qu'est-ce qui trouve écho dans votre soin artistique?
Et ben c'est aussi une période où il y a beaucoup beaucoup de peintres femmes, des centaines. Super. Et donc c'est un moment de l'histoire de l'art où il y a une scène féminine florissante à la faveur justement de la mode du portrait, une critique d'art féminine aussi. Et donc le situer à ce moment-là, c'était pouvoir inventer un personnage qui avait sa vérité.
Alors, ce personnage, vous êtes la peintre en question, celle qui arrive et qui est un peu planquée, comme l'a dit tout à l'heure Daniel Morin, elle ne se présente pas comme étant immédiatement une peintre à Adèle Haenel, qui est la jeune fille promise. Et il y a tout un jeu, en effet, de séduction, et on ne sait pas au début si c'est un jeu de séduction pour l'amadouer, la convaincre, l'approcher et pouvoir créer, ou si il y a un trouble qui s'installe dans la créatrice.
Ah bah, vous avez répondu à la question du coup parce que...
Oui, ça arrive souvent.
Ouais. Ouais, il est content, il a compris le film, donc... Ouais. Ça va,
si vous voulez, on peut faire un jeu, là, pour gagner de la thune. Hein.
Non mais c'est ce qui est très beau dans le film, c'est on parlait de la naissance d'un amour, c'est comme la naissance d'une œuvre en fait, parce que l'amour c'est aussi une œuvre qu'on fabrique à deux, ou à plusieurs, ça dépend Daniel. Mais ce que je veux dire par là, ce qui est très très beau, c'est de voir ce parallèle entre l'obligation de votre personnage d'observer cette jeune fille pour faire ce portrait le soir, tard, alors qu'elle manque de lumière, et de voir et de se demander dans quelle mesure le regard qu'elle porte sur sa nuque, sur son oreille, est un regard de peintre ou un regard d'une femme qui est tout d'un coup troublée par par une attirance. C'est ça qui est hyper beau, et
le trouble est dans les deux sens. C'est-à-dire que même elle, quand elle se sent observée,
oui, l'observatrice observée,
elle se dit mais c'était ça vos regards. Enfin, je crois que la phrase, je ne sais plus exactement quelle est la phrase qui est dite, mais
c'était donc ça vos regards.
Voilà, c'était donc ça vos regards. C'est-à-dire que elle est presque déçue que les regards étaient un regard de peintre ou
plutôt qu'un regard amoureux.
Qu'un regard amoureux. Ouais. Au moment qu'on a répondu à la question.
J'ai toujours répondu à la question.
À quelle heure?
Sinon, on peut faire un jeu au parmi.
Moi, je suis prêt.
Non, mais en effet, c'est au-delà de la création de ce tableau. En fait, c'est la création d'une histoire d'amour et comment petit à petit le trouble s'installe et qu'est-ce que ça fait quand on tombe amoureux. C'est un frisson, c'est une respiration, c'est la manière dont on se frôle, la manière dont on se regarde. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et aussi la création d'un langage entre nous deux, de comment on se parle et tout ce qu'on ne dit pas aussi, qu'est-ce qu'on fait avec nos émotions qu'on ressent. Et comment on est présente avec elle et ce qu'on dévoile ou non.
Pourquoi il fallait passer par un métier artistique pour créer une histoire d'amour?
Oh, il fallait pas forcément, mais c'est vrai que moi j'avais envie de mêler les deux aussi, sans doute parce que bah c'est ce que je connais.
Oui, parce que
c'est deux femmes émancipées aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est deux femmes très émancipées, c'est-à-dire qu'une femme peintre, en effet, c'est pas monnaie courante, elle reprend, on va dire, l'entreprise paternelle, et puis une femme qui refuse le mariage, une femme qui ne se donne pas à voir tout de suite, parce que dans le film, il faut attendre pour la voir, c'est ça aussi, parce que vous créez ce désir amoureux, je trouve aussi, chez le spectateur. L'apparition d'Adèle Haenel, déjà elle est de dos, on la voit pas encore arriver. Il y a aussi cette envie de se dire mais qui sont ces deux individus si singuliers qui se rencontrent et qu'est-ce que ça peut justement créer par la suite.
C'est la montée du désir dont on parlait tout à l'heure avec le film. Non, c'est-à-dire que de tout avoir tout de suite, ce qui est quand même la tendance du moment avec la technologie, les applications, même les sites de rencontres, les applications de rencontres, ça pour vous ça enlève justement ce désir et ça n'arrange pas les histoires d'amour.
Oh, je peux pas vraiment statuer sur les histoires d'amour dans la vie. Je suis pas sûre que les outils nous rendent plus rapides ou plus confiants, hein, parce que c'est surtout ça qui
compte. S'enlèvera pas heureusement le.
Ça enlèvera pas la grande question qui est qu'est-ce que l'autre, qui est l'autre. Mais là, il se trouve qu'on est au cinéma et qu'on est maître de nos et maîtresse de notre monde et que de jouer de ce délai, de cette frustration et d'impliquer le regard du spectateur là dedans quoi. Qu'est-ce que c'est que le suspense de découvrir un visage, c'est proprement du cinéma. Donc,
non, puis vous avez raison de parler de suspense, parce qu'il y a aussi le suspense dans leur rapport, il y a le suspense dans la libération des femmes en général, parce qu'il y a aussi un autre personnage qui est la gouvernante, enfin je sais pas quelle
la servante,
voilà, qui est jouée par
Luana Bajrami, une fille de 18 ans.
Exactement, où là aussi, tout à l'heure je parlais de la liberté de disposer de son corps, c'est aussi l'un on dispose de son corps pour aimer qui l'on veut, et en l'occurrence deux femmes qui s'aiment ou deux hommes qui s'aiment. Cette liberté-là, il faut l'avoir, mais aussi la liberté
des conséquences
et du regard des autres, et puis la liberté d'avoir ou pas un enfant, ce qui est le problème que se pose cette servante aussi. Ce sont des questions que vous vouliez aussi mettre.
Oui,
autour de la femme ou des femmes.
Des femmes, ouais, parce que justement la femme n'existe pas, et donc plus on en montrait, plus on était justement en train de faire un truc intéressant.
Oui, puis il y a la mère aussi, Valéria Golino.
La mère Valéria Golino qui incarne une forme d'ordre et d'autorité, mais qui est elle aussi déjà une femme jeune de 50 ans, qui a ses désirs, ses projets. On n'est pas dans la marâtre des contes de fées.
C'est ça.
Et cette servante, c'est pas non plus la petite servante, la petite bonne qui justement porte des trucs sur des plateaux. Elle existe. existe en tant que personnage avec son propre enjeu.
Ouais, et puis elles mangent même ensemble dans la cuisine. Enfin, il y a pas le côté je.
Non, il y a une dynamique de sororité entre elles qui abolit un peu la hiérarchie des classes et qui crée plus de surprises, quoi, aussi.
Et enfin, un film où les femmes ne passent pas leur temps à parler des hommes, où les femmes sont là pour ce qu'elles sont.
Il y a un homme à un moment donné, on se dit qu'est-ce qu'il fait là, lui.
C'est pour qu'on se dise que c'est pas de la science-fiction.
C'est ça.
On en a mis un. C'est pour rappeler qu'il n'était pas là.
Mais en tout cas, sincèrement, je vous l'ai dit avant de démarrer cette émission, et je vous le redis dans le blanc des yeux, Céline Sciamma, vous avez réussi un bijou de cinéma, oui. Parce que chaque plan est étudié, léché, la lumière, la manière dont c'est, même les plans séquences que vous faites pour accompagner le dessin, parce que c'est en ça que je voulais venir aussi, la caresse de la main sur la toile, même si j'imagine que c'est pas exactement la main de Noémie Merland et que c'est une peintre qui l'a fait, mais ce plan séquence du dessin qui se crée au fur et à mesure et où finalement l'artiste commence déjà à caresser celle dont elle tombe amoureuse, c'est bouleversant, c'est émouvant, et vous avez raison d'employer le mot suspense, parce qu'il y a aussi ce côté haletant en se disant mais qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir. Il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de coup de fusil, il n'y a pas de bandit, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas d'assassin, mais
qu'est-ce que ça fait du bien,
il y a, voilà, mais il y a ce suspense et cette délicatesse.
Est-ce que le château va couler, c'est...
En tout cas, c'est une réussite et c'est un bonheur d'en parler aujourd'hui avec vous deux. Alors justement, puisque j'ai déjà beaucoup fait des questions et les réponses, là vous avez encore moins de réponses à donner, puisque c'est Tom qui va faire. Tom, viens.
Je vais m'occuper des questions et des réponses. Ouais. Céline Sciamma et Noémie Merland, bienvenue dans la bande originale. Merci d'avoir accepté de venir. Et d'ailleurs, pourquoi avoir choisi Nagui ?
Il concerne la moitié de l'humanité.
La moitié de l'humanité, c'est vrai que l'émission marche.
Un quart, mais peut-être. Quart,
ouais, ou la moitié de la France, enfin, ou encore les départements qui finissent en 92. Mais de... Et vous, Noémie, un petit mot pour Nagui ?
Il faut travailler.
Ah non, non, je ne peux pas laisser passer ça, justement, Nagui, il bosse comme un fou. D'ailleurs, Céline, qu'est-ce que ça vous fait d'être dans une émission où l'animateur a vu votre film ?
C'est inhabituel.
Bah, tu m'étonnes. Céline, dans ce film, alors, on voit que vous aimez vos actrices, mais on a du mal à comprendre précisément ce que vous pensez, Noémie.
C'est pas facile de travailler avec une petite fille de 6 ans.
Pardon, vous êtes sûre en ce qui concerne l'âge ? Oui, Noémie, vous avez quelque chose à me dire, hein ?
Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain ?
Alors non, je crois que vous avez un problème toutes les deux avec l'âge de manière générale. Et puis c'est normal que ma mère me laisse sortir seule, j'ai 30 ans. Donc,
c'est un âge où on joue encore beaucoup au bébé.
Non, pas vraiment. Non. Au docteur peut-être, mais on va revenir au film si ça vous embête pas. Hein, et au jeu de vos deux comédiennes que j'ai trouvé tout en retenue. D'ailleurs, quelle est votre technique de direction d'acteur devant une scène, Céline ?
On joue au foot 6 heures d'affilée.
Pardon, mais c'est un film d'époque sur la peinture, la place de la femme. Moi, je pensais que vous étiez plus sur la psychologie. Mais
le mind game qu'il
ouais.
a...
Non, alors non, faut pas utiliser de mot anglais. Moi, je suis pas du tout bilingue. Non, si ça vous embête pas, on va rester en français. Comment définir d'ailleurs l'appréciation de Noémie Merland ?
Elle n'a pas la notion du travail.
Ah bon ? Bah si, moi, vu le résultat, ça m'étonnerait. Noémie, vous avez bossé, vous avez regardé quoi comme film pour vous inspirer ?
Bienvenue à Marly-Gaumont.
L'histoire de Camini, là, la famille de Noirs qui se retrouve dans un village du Nord que de blancs. Oui, mais ça reste du travail quand même. Pitchez-nous votre rôle, tiens, pendant que j'y suis.
C'est le rôle d'une jeune fille qui est embrigadée par Daesh.
Pour le même film, c'est effectivement, elle bosse pas.
Ça, c'était dans le ciel à tendre.
Oui, Céline, vous voulez rajouter quelque chose sur la direction d'actrice ?
We really focus on what she experiences.
Non, vraiment, j'insiste. Parlez pas en anglais, ça va être une galère pour moi. Bon, on arrive à la fin de l'interview.
C'était la plus belle aventure de ma vie cinéaste.
Bon, écoutez, tant mieux. Oui, Noémie ?
Vous voulez communier ?
Oh, bah écoutez, pourquoi pas, pourquoi on en est ? Si ça vous dit de communier avec la musique, Nagui me disait hors antenne qu'il serait ravi que vous fassiez N'oubliez pas les paroles.
Je suis pas à l'aise quand je chante devant les gens.
Et bah, comme ça, c'est réglé. C'est un nom, Nagui. Bonne émission.
Merci, la bande originale. Nagui. C'est votre quatrième long métrage, cette réussite. On avait déjà beaucoup évoqué d'ailleurs votre travail dans cette émission, Céline Sciamma. Mais quelle est la part de Céline Sciamma qu'il y a dans ce portrait de jeune fille en feu ?
Le film dit que si l'artiste regarde, l'artiste est aussi regardé. Donc la part est grande et surtout la part, je pense que elle est pas cachée. C'est pas un secret du, il y a pas de secret dans le film. Un film qui parle de cinéma et qui parle d'une...
C'est votre histoire ?
C'est mon histoire, non. Comment ça c'est mon histoire ? Non, moi je peux vivre mes amours.
Non, non, mais c'est, voilà, on sait, puis ça a été écrit et dit dans les interviews, le rapport intime avec Adèle Haenel, on sait le rapport intime qu'il y a avec la création, sait aussi que les actrices, les réalisateurs ou réalisatrices et les acteurs, il y a aussi un jeu de séduction dans la manière dont on les filme, la manière dont on se donne ou on joue face à une caméra. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de vous dans l'intime et dans le professionnel.
Oui, mais quand je vous dis, j'ai ma pudeur, mais quand je vous dis que c'est offert, que c'est donné, c'est parce que justement c'est pas caché. Effectivement, c'est un film qui, effectivement, j'ai une longue histoire avec Adèle Haenel qui continue dans cette collaboration, mais c'est plutôt le point de départ du film, c'est pas du tout le point d'arrivée. Moi, j'ai le sentiment de donner des nouvelles de moi au présent et non pas de raconter mon histoire justement. Et donc voilà, c'est plutôt on se rend compte.
Est-ce
maintenant.
Que vous, Noémie Merlant, vous ressentez ça, ce rapport de séduction à travers un objectif, que ce soit une caméra, un appareil photo, quand on est dirigé par quelqu'un et que on donne de soi, on donne de son temps, de son regard aussi, et de sa générosité.
Un rapport de séduction, enfin, je pense qu'on a envie de.
De plaire quand on fait votre métier, on a envie de plaire,
on a envie de que ce qu'on exprime et ce qu'on offre soit bien regardé par la personne en face et soit comprise et c'est une manière d'exister et de participer pleinement à un travail, à une collaboration justement.
Moi, je crois que ça passe assez peu par de la séduction, en fait. Je dois dire, je suis tout à fait d'accord pour dire que les plateaux sont des lieux où il y a de la sentimentalité, beaucoup d'amitié. Mais en réalité, on partage tellement nos cerveaux que oui, il y a une séduction intellectuelle qui est très forte, mais cette idée qu'il faudrait un petit peu se désirer, un peu être amoureux.
Non, c'est pas minauder, mais c'est créer une envie. Après, l'envie n'est pas forcément sexuelle, elle n'est pas.
Non, je sais, mais dans tout le vocabulaire amoureux qu'il y a autour du plateau, ça entretient en fait des ambiguïtés dont on a marre, en fait, parce que c'est plus intéressant que ça, ce qu'on vit en vrai, beaucoup plus. Quoi.
Ouais, et c'est un film, en effet, je trouve, qui parle aussi d'aujourd'hui. Alors, je crois que ça tient au choix des deux actrices. Je trouve que Noémie, vous avez une beauté incroyable.
Une beauté d'aujourd'hui.
Non, au contraire, je pense que justement...
Demain. Elle a un peu de demain aussi.
Je vais essayer de finir cette phrase, mais je trouve que vous avez quelque chose de saisissant dans l'époque qui est racontée du 18e siècle. Je vous vois complètement évoluer dans cette période et je trouve qu'Adèle Haenel a quelque chose de plus contemporain. Et je trouve qu'à l'image, quand on vous voit réunis au-delà de la beauté et de l'amour qu'on ressent par procuration aussi, quelque part, parce qu'on est vraiment... Ce que je trouve important de dire, c'est que d'aller voir ce film, c'est pas simplement voir une histoire, c'est l'éprouver. Et je trouve qu'Adèle Haenel, elle a quelque chose de plus contemporain, donc j'ai la sensation qu'on est dans une histoire qui me raconte un peu hier, un peu aujourd'hui, qui fait que tout d'un coup c'est assez évident. Je sais pas si c'est l'œil de la réalisatrice le perçoit tel quel.
Bah surtout aussi, Adèle Haenel, c'est un visage et un corps qu'on a vu grandir dans le cinéma et qui a fait une éruption très très... Elle a été une grande contemporaine. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a, il y a toujours la persistance rétinienne des rôles. C'est ça qui est beau dans les carrières. Noémie, même si elle est là depuis un bout de temps, on la découvre aussi. Ouais. Et c'était d'ailleurs ce plaisir-là d'associer un visage déjà aimé avec un visage moins connu.
Comment elle est récente mais elle fait déjà vieille, c'est bizarre.
Non, c'est pas ça, mais je comprends. Adèle Haenel, elle a dans la démarche, elle a quelque chose de très contemporain, elle a quelque chose de et en effet on l'a vu grandir, donc on la connaît.
Ouais, rock presque.
Oui, mais elle est très différente, elle propose autre chose, elle pose sa voix différemment, elle utilise son visage différemment, elle est beaucoup plus contrainte et on voit elle a inventé vraiment un personnage, c'est une Adèle un peu nouvelle aussi.
Comment Noémie Merlant, comment Céline Sciamma vous a parlé du film, elle vous a contacté, elle vous a appelé, ça s'est passé par agent interposé ou c'est juste un café.
J'ai appelé son père.
Merci monsieur.
Chercher un duplex à Bagnolet.
J'ai mon agent m'a donné
un scénario.
Mm-hmm. Scénario de Céline et j'avais rendez-vous casting avec Christelle Barras qui est la directrice de casting et je ne pensais pas que Céline serait là et en fait Céline était là. Et
ça veut donc dire que vous avez vu plusieurs comédiennes.
Oui, bien sûr, j'en ai vu une quarantaine, je pense.
Et quelle était l'indication donnée à la directrice de casting, c'est-à-dire vous avez dit je cherche telle femme pour tel rôle, ou c'était voilà le scénario, lisez-le et trouvez-moi la Parce qu'il y avait, forcément Adèle Haenel.
Il y avait Adèle, effectivement. Mmh. Donc, il y avait le scénario qu'on lit et qu'on discute, on réfléchit à ce qu'on cherche. Et
40 comédiennes, ouais, pour arriver à Noémie Merlant. Ouais. Quel a été le processus?
Un processus de, on regarde, on interagit. Il s'agit pas de, on cherche quelque chose, on cherche un duo, on cherchait à faire couple aussi. Ce qui a été décisif, c'est quand Noémie et Adèle ont été toutes les deux dans le même cadre. Et là, il y avait une évidence. Moi, je cherchais du contraste, je cherchais une brune. Ça c'était pour dire quelque chose d'un contraste physique de cinéma, et puis après on cherchait beaucoup d'égalité, on voulait de l'égalité entre elles, et quand elles ont été toutes les deux dans le même cadre, il y avait à la fois la tension, et puis en même temps
cette évidence,
vous
l'aviez pas au moment de voir les 40 comédiennes face à vous.
Non, mais c'est un chemin, le casting, parce que c'est un moment où on comprend aussi un peu ce qu'on est en train de faire quand on voit ça m'intéresse ça, et c'est un chemin qui mène vers l'incarnation, vers les personnages.
Et il y avait une scène qui a servi justement pour faire les essais, une scène qui est dans le film.
Oui, une scène qui est dans le film, qui est la scène, je donnais la réplique d'ailleurs, et qui est la scène, si vous me regardez, la scène où le peintre décrit au modèle tous ses tics, et où le modèle fait la même chose ensuite. Et donc moi j'étais dans la position du modèle, et les actrices potentielles, et donc Noémie dans la position du peintre. Donc on était déjà dans un.
C'est encore présent ce moment dans votre esprit, dans votre mémoire, Noémie?
Le regard de Céline qui me donne la réplique, c'était quand même, c'est rare, un réalisateur qui est là au casting et qui en plus te donne la réplique. Donc c'était très très intense et très bienveillant. Et du coup, ça m'a laissé la possibilité de m'exprimer. Et donc c'est vraiment.
Ça sort aujourd'hui. C'est doux, c'est puissant, c'est intelligent et c'est beau aussi. C'est une œuvre. Il y a un côté très esthétique. Il faut pas s'arrêter évidemment au beau, à la forme. Il faut aller aussi dans le fond, dans ce qui s'y passe. Mais on reparlera aussi de l'esthétisme que vous avez mis dans la lumière, dans les cadres et peut-être des références de toiles ou d'œuvres ou de peintres que vous avez voulu glisser. C'est une réussite. Ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu.
Aussi,
j'ai toujours peur d'enchaîner, oui. Jeune fille en feu avec Guillermo, j'ai toujours peur. C'est Guillermo.
Ça va les amigos?
Ouais.
Comme vous le savez, lundi c'était la journée mondiale du guacamole. Donc je vais vous parler d'Anna Arendt, qui n'aimait pas spécialement les avocats, ni les transitions d'ailleurs. En revanche, elle a quand même dit 2-3 trucs dans sa vie, notamment que chaque génération d'enfants est une civilisation barbare que les adultes doivent civiliser. Ce qui est même très juste, quand ça naît un bébé, ça connaît encore rien de la culture humaine. Il n'y a jamais un bébé qui sort du ventre de sa mère et qui crie « La TV à 21%, c'est un très mauvais signal !» Et je parle même pas de la Coupe du Monde au Qatar, maintenant mon lait. Il faut tout leur apprendre, et ils sont très malléables sur le plan cérébral. Avant 3 ans, un bébé, ça peut former 1000 nouvelles connexions neuronales par seconde. C'est beaucoup. À titre d'exemple, moi je suis à 4 par semaine, dont 2 pour écrire cette chronique. C'est quand même une de plus que Tom Villam, mais enfin. Je pensais à ça hier matin, j'étais au cabinet, je me disais « Mexicain, on m'y reprendra plus !» Et là, j'écoute France Inter, oula, et sur qui je tombe dans la matinale? Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre.
Oui.
Et voilà, et je me dis, Boris Cyrulnik, il est quand même extraordinaire. Il dit que de la merde, vraiment.
Ça va pas,
là, sur ce point-là, non, vraiment. Je suis assez d'accord avec vous, Nagui. Je peux pas le saquer, Cyrulnik. Vraiment, sur ce point-là, je suis d'accord. Dans votre bureau, vous me disiez, c'est une imposture et tout.
Mais
plus jamais il met un pied dans mon émission.
J'adore.
Moi, sur les enfants, j'ai qu'un maître, c'est Jackie du Club Dorothée et tout. Mais ça, c'est vrai. Et c'est vrai que Cyrulnik, il disait hier, avec son groupe d'experts sur les 1000 premiers jours de l'enfance, il veut proposer au gouvernement d'augmenter la durée du congé parental.
Ouais.
Je me dis, mais quand est-ce qu'on va arrêter de déresponsabiliser les bébés, quoi? Si à 11 mois, t'es pas capable de gérer un minimum ta life, ça c'est la culture de l'assistanat, ça c'est 60 ans de socialisme. Il a fait beaucoup de mal, Pierre Bergoglio, je te le dis. La prochaine fois que tu l'interviews, Leïla, tu peux lui dire de ma part.
Oui.
Mais sérieux, j'entendais ça, je me disais, Ernesto, fils d'une bouée de sauvetage, eh bien, interviens avec le standard de France Inter. T'as la pratique en plus avec les enfants, c'est vrai, j'ai pas eu d'enfants, mais c'est vrai que j'ai été beau-père une quarantaine de fois, comme Anthony Delon. Et j'ai un peu l'impression qu'on dans une surprotection du bébé. Il y a un outil qui est formidable pour développer ses capacités cognitives et assurer son épanouissement. La télévision. Bah oui. Avant de partir au boulot, tu mets ton bébé devant télé matin. Voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour appréhender le monde. Des informations, une météo. Il y a tout vraiment. S'il est un minimum discipliné, le soir quand tu rentres, il est toujours assis sur le canapé. Là, tu lui prépares ses rognons et hop, tu le mets au lit. C'est pas si compliqué d'éduquer un enfant, c'est vrai. Il a parfaitement raison, Boris Cyrulnik, de dire qu'il faut parler le plus possible au bébé pour le stimuler sur le plan neurologique. Je dis juste juste, qu'est-ce que ça change que ce soit toi qui lui parle ou Laurent Bignolas? C'est un détail, ça change rien, franchement. En plus, il faut arrêter avec le cul des bébés. Franchement, les bébés, c'est les pires des rats. 9 fois sur 10, tu vas au resto avec un bébé, jamais ça sort son portefeuille. L'addition arrive, il fait semblant qu'il a un appel. Et toi, t'es là, tu me la fais pas, Luc. Je te connais, ton téléphone, il est factice. Oui, Luc, c'est le prénom du bébé. Et après, c'est vrai que si on sécurise leur environnement pendant les 1000 premiers jours de leur vie, ils ont toutes les chances de mieux s'en sortir psychologiquement. C'est vrai, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de grandir dans un environnement sécurisant pour réussir sa vie? Regardez Daniel. Il a commencé à parler à l'âge de 16 ans. Regardez la niaque qu'il a aujourd'hui. Cette envie de s'exprimer tout le temps. À bon escient, ça n'a aucune importance. Bon, c'est pareil, ma mère était alcoolique. À 6 ans, je cuisinais ma panade tout seul. Je mettais du curcuma pour donner du goût. Vraiment, tu sais quoi, à 1 an et demi, je vivais en coloc. Moi, ça m'a rendu du brouillard, quoi. Vraiment. Donc, c'est vrai que c'est louable de la part du gouvernement de vouloir protéger la petite enfance, de gommer les inégalités de destin et de mieux préparer les parents face à l'arrivée d'un nourrisson. Mais franchement, le groupe d'espère, moi, je l'aurais quand même mis avec Jackie. Allez, bonne émission, les amis.
Merci. Yes.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Hier au Guise.
Ouais, le 4 octobre sur scène à Annecy.
Très bien. Dans quelques instants, nous allons recevoir Sandrine Andrews pour parler justement des femmes peintres. Elle est historienne et critique d'art et elle a écrit cet ouvrage qui est paru aux éditions Palette. Les bien nommées, c'était en 2018. Mais d'abord, soulignons que c'est un film rare, à plus d'un titre, pour sa beauté, son histoire et votre talent, Céline, et le talent de vos actrices. Mais c'est un film où il y a 2 morceaux de musique.
Ouais.
2 morceaux de musique. Et la musique, elle est un personnage du film. Elle n'est pas là pour être une bande-son avec simplement un violon au moment où quelqu'un se balade dans la nature. Non, elle est très présente avec d'abord des chœurs. Et là, je ne sais pas dans quelle salle de cinéma vous allez le voir, mais le son monte, monte, monte. On a l'impression que tout va exploser.
Ça, c'est le chant de la sororité, quoi. Il y a un truc très, très beau dans ce moment de communion où on a envie de.
C'est là qu'il y a un mec qui passe. Je m'en souviens. Non, c'est le technicien.
C'est le perchiste. C'est le perchiste, oui, c'est ça, voilà, voilà, là, lui. Ça, et puis, autre moment.
On arrête. Nagui, le toucher, le tac.
C'est pas la bonne musique, c'est pas grave. Non, c'est on va remettre, on va respecter. Non, là, c'est extrêmement fort et émouvant parce que c'est une. Cette musique de Vivaldi a 2 étapes dans le film. Une étape d'initiation, de transmission et une étape que je vais qualifier d'émotion. Voilà. Chacun vivra ce moment-là, mais c'est un moment extrêmement fort. La musique n'est donc pas présente. Pourquoi n'avoir mis aucune musique dans les autres moments du film?
Alors, par souci de reconstitution, c'est-à-dire que je voulais mettre les spectateurs et spectatrices dans le même état que les personnages. Il y a une frustration parce qu'il n'y a pas d'accès à la beauté. Il faut aller à l'église pour écouter de la musique, ce qui explique beaucoup le succès de la religion, d'ailleurs, avant le transistor.
C'est vrai.
Donc c'est dans ce souci-là, quoi, de proposer une expérience aussi liée à la musique qui soit forte. C'est comme si vous invitez des gens à une soirée dansante et vous mettez de la musique au bout d'une heure. Ils vont tous danser comme des dingues, quoi. Si on met que 2 titres à une soirée dansante,
vous êtes pour la montée du désir. Quoi qu'il arrive.
Moi, je suis pour les sensations fortes, et c'est vrai qu'on pense les films comme des manèges. Et bon, parfois, la musique, il y en a tellement qu'on l'entend plus, enfin, en tout cas, il faut juste y penser, quoi. Moi, j'aime bien ces effets d'accélération et d'émotion que ça produit. Donc, c'est parce qu'on croit beaucoup à la puissance de la musique qu'on en met peu dans ce film. Mais il y a une musicalité ailleurs. Il y a les souffles, il y a les pas, il y a la mer.
Non, puis le silence en fait partie aussi. Oui. C'est un moment très important, des moments très importants. La bande originale de vos vies, pardon, vous a quand même demandé ce que vous écoutiez dans vos vies. Par exemple, fin des années 80, Noé Merlan, vous écoutiez. Quelles images avez-vous en entendant Mylène Farmer?
La pochette de l'album, moi j'étais fascinée par son album parce qu'il était rangé dans un meuble et il y avait une tête de poupée, oui, de marionnette. Ouais. Et rien que la pochette me fascinait, me faisait peur et j'avais un truc très, très étrange avec cette pochette. Bref, et non, les émotions, alors c'était à la fin des années 80, j'avais 1 an, donc un peu après, mais...
Et c'est toujours, il y a encore des gens qui s'éclatent sur ce titre aujourd'hui.
Ah, je m'éclate toujours, moi, ah ouais. Et c'est toujours ma...
T'es une référence.
Ah ouais.
On a parlé de votre enfance à Rosay, à côté de Nantes, avec je crois que vos deux parents sont acteurs, en fait, agents immobiliers, ou juste votre père?
Tous les deux.
Tous les deux, voilà. Et la découverte aussi du plaisir de la scène, d'organiser des petits spectacles, de chanter. Et je crois que la première expérience sur les planches, c'était au collège, est-ce que vous vous souvenez? C'est dans les fourberies de Scapin.
Oui.
Vous incarniez quel personnage, vous vous souvenez?
Non, je sais plus du tout. C'était on a fait un petit bout, hein.
De, ouais, ouais.
C'était spectacle vraiment avec notre cours de français, quoi. Ouais. Donc je me souviens, j'ai le souvenir de ça, mais c'était.
Et vous chantiez quoi?
Je chantais quoi? Alors c'était des spectacles un peu.
Noémie, vous chantiez quoi?
Je chantais quoi? Je chantais Céline Dion beaucoup. Céline Dion.
Ah, Titanic.
Notre-Dame de Paris. Oui, Titanic. Ouais. Voilà, j'avais accompagné de petites danses et de costumes faits maison.
Mais que des musiques françaises en tout cas.
Oui.
D'accord. Quant à vous, Céline, c'était plutôt American Way of Life. Qu'est-ce qui vous plaît chez Madonna? Sa musique ou ce qu'elle dégage et la femme forte qu'elle est aussi?
Tout. Par exemple, cette chanson, c'est une chanson, c'est un tube archi-dansant, culte, et c'est une chanson sur l'avortement. Mm. Voilà, Madonna, c'est ça. Quand Madonna parle, on écoute.
Et à cette époque-là, c'est la découverte des parapluies de Cherbourg pour vous. Alors, un film de Jacques Demy. Et la rencontre de Jacques Demy vous conduit à une autre rencontre qui est essentielle, celle de sa comédienne un peu fétiche, Catherine Deneuve. Et finalement.
Non, mais vas-y, continue de parler. Oui.
Musique de Michel Legrand.
Ouais.
Et à travers cette figure de Catherine Deneuve, vous devenez aussi une forme de cinéphile.
Oui, je la suis de film en film, et donc je découvre les grands auteurs qu'elle a accompagnés ou qui l'ont accompagnée. Donc c'est Buñuel, Truffaut, et enfin, je vais pas faire la liste, mais.
Qu'est-ce qui vous a tant plu chez Jacques Demy?
Ce qui m'a plu, c'est que je sentais que la fiction était hyper importante, et surtout aussi que j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui filmait pour la première fois. Et qu'on pouvait aussi intervenir sur le réel, qu'on pouvait repeindre une ville pour faire du cinéma.
On va passer maintenant à 2007, Noémie Merlan, vous écoutiez. Alors, ça, c'est la Nantaise qui écoutait ça, ou c'est
l'amoureuse? J'arrivais sur Paris, ouais.
Donc vous écoutiez Nantes?
J'écoutais Nantes, j'écoutais Nantes. En plus, il y a un petit passage de film dans cette chanson. Dans les chansons de
Beyrouth.
De Beyrouth. Et c'est un groupe qui m'a accompagnée pendant toute mon installation à Paris, que j'écoute plus trop maintenant, mais en la réécoutant, ça me rappelle énormément de.
C'était difficile cette installation. On se sent seul, perdu dans une immense ville où on croit que toutes les rencontres sont possibles.
Oui, c'était. J'étais seule. J'avais 17 ans. J'ai débarqué à Pigalle. J'avais pas
le
mal
bon
de
endroit pour une jeune fille de 17 ans.
J'avais des propositions de travail tous les soirs dès que je rentrais chez moi. C'était très particulier.
Il y avait vraiment cette pression-là.
Ah ouais, je me souviens que j'étais pas
tranquille.
J'étais pas très. Surtout que moi, je débarquais de Rosay, donc ça, c'était quand même un contraste énorme. Mais en même temps, tout était possible, quoi.
Et parce puis, que si je peux me permettre,
le théâtre et tout.
Pigalle, Metz, Montmartre, c'est un quartier très sûr, en fait.
Ça dépend. Le soir tard, c'est différent, en fait.
Ça se passe rien. Il y a pas d'agression, il y a pas de.
Mais toi, t'es propriétaire de plusieurs établissements là-bas, donc forcément, t'es en sécurité. Mais pas tous.
Non, mais j'imagine.
Moi, qui suis client de ces établissements.
Ceux qui viennent au salon de massage, ça se passe très bien.
Patrick.
Et c'est votre entrée au cours Florent aussi à cette époque-là. Oui. Quand est-ce que vous avez décroché votre premier rôle, votre première apparition? Est-ce que vous avez un souvenir de ça?
Oui, c'est dans un film qui s'appelle L'Orpheline, avec en plus un bras en moins.
C'est génial comme titre.
Jacques Ressa. Donc j'étais au cours Florent. C'est le titre, oui, c'est le titre.
L'Orpheline avec en plus un bras en moins.
Voilà, c'est un film qui avait été écrit, co-écrit avec Roland Topor. Et c'était ma première expérience de cinéma. J'étais encore au cours Florent. Et ma première scène de film, enfin avec une caméra, parce que j'avais même pas fait de court-métrage à ce moment-là, j'en ai fait après. C'était une scène dans le bain habillée avec Melville Poupeau. C'était ma première. Il fallait que je rentre dans ce bain et voilà, c'était assez étonnant comme entrée.
Bah, c'est très sexy prendre un bain habillé.
Mais dis pas n'importe voilà. quoi.
Si.
Ça dépend du nombre
avec de bras. Avec un bras en moins.
Avec un bras en moins.
Ah, j'ai
c'est difficile. Il va changer après.
Je vais essayer. Je vais essayer ce soir.
Il va mettre les boutons.
Quant à vous, Céline Sciamma, en 2007, vous écoutiez. On a choisi ça, vous avez dit Radiohead en général, ouais. Mais ça va.
Bah oui, celle-là, elle est épiphanique quasiment.
Tout va, oui. Parce que ça évoque quoi Radiohead dans votre vie? Ou en 2007, pourquoi 2007 correspond à Radiohead?
Mais c'était pendant le tournage de Naissance des Pieuvres, j'écoutais beaucoup Radiohead. Et puis il y avait vraiment, excusez-moi, j'en perds ma voix. Il y avait vraiment le contemporain. Pour moi, Radiohead, c'était le contemporain. À chaque fois que leurs albums sortaient, c'était important. C'est les moments où même on l'achetait, on rentrait et on l'écoutait en entier. Et ça, il y a peu de... Voilà, c'est bien quand on aime à fond le présent, quand on se dit c'est cool d'être contemporain.
Il y a toujours l'attente, le moment, et enfin l'attente de la montée du désir et le plaisir.
Vous commencez à me comprendre,
mec. Mais non, mais...
Il est 11h49.
Vous faites quoi, 12h31?
Il connaît la nature humaine, Nagui.
J'attends.
Ce premier long métrage, Céline Sciamma, Naissance de Pieuvre, qui est magnifique. C'est un scénario que vous avez écrit. Alors, vous étiez encore étudiante à la FEMIS. Mm-hmm. Vous aviez présenté, j'imagine, en fin d'année.
C'était pour moi, c'était mon diplôme.
Ouais, c'est le diplôme. Mm-hmm. Et pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé ou encouragé, peut-être, à faire de ce scénario un véritable film? Parce qu'il aurait pu rester juste à l'état de texte.
Ben, l'enthousiasme des autres, ouais. Voilà, ça passe aussi beaucoup par ça, le cinéma.
Ouais.
Et notamment de ma productrice, Bénédicte Couvreur, avec qui on a fait 4 films depuis. Donc, ouais, ça passe par le regard des autres, beaucoup, de se sentir légitime.
On va reparler évidemment de votre...
C'était gênant ce petit moment de silence.
Non,
c'était...
Non,
non, non, tu te trompes, c'était un extrait de la bande-son du film de Céline Sciamma.
C'est un futur jingle.
C'était une respiration. Le portrait de la jeune fille en feu, on va évidemment parler avec maintenant vous, Sandrine Andrews, merci de venir à ce micro.
Merci,
vous êtes historienne, critique d'art, auteur de l'ouvrage donc Femme peintre, paru aux éditions Palette en 2018. Tout à l'heure, Céline Sciamma nous disait qu'il y avait beaucoup de femmes qui se mettaient à la peinture au XVIIIe siècle. Est-ce qu'il y a vraiment une période où les femmes se mettent à peindre ou elles ont toujours été artistes? On a peut-être plus parlé d'elles à ce moment-là.
J'espère que vous m'entendez bien, oui. La tranche de temps avant nous est très très longue. Donc j'imagine que, et j'espère qu'il y a eu beaucoup de femmes peintres. Par contre, elles ne sont pas très connues. Au XVIIIe siècle, c'est vrai.
Pourquoi elles ne sont pas connues? Parce que femmes?
Alors ça, c'est...
elles sont pas connues parce qu'elles
peignaient mal. Parce que déjà, elles sont quand même moins nombreuses, mais parce qu'elles sont considérées pendant très très longtemps comme inférieures aux hommes, et elles n'ont pas accès à ce métier. Donc déjà, ça... C'est pas facile de devenir peintre. Une femme est mariée. Un doigt existe dans sa vie à deux chemins. Soit c'est l'église, soit c'est avoir un mari. Donc en fait, le métier, ça n'existe pas.
Chouette.
Donc, la peinture, je trouve un peu l'ambiance, je suis désolée.
Ça fait un choix, hein, c'est déjà ça.
La peinture est une forme d'émancipation, comme l'a dit tout à l'heure Leïla. Se mettre à la peinture, ça voulait dire.
Ça veut dire, je pense, pour une femme, c'est déjà faire peut-être ce qu'on a envie de faire. Mm-hmm. Et c'est assez rare, c'est vraiment un luxe, c'est hyper précieux. Et je pense que certaines femmes ont eu accès à la peinture parce que souvent, elles avaient un père avant qui avait les outils étaient devant elles. Donc en fait, c'était.
Et c'est le cas dans le film.
Oui, donc
c'est le cas.
Elles avaient accès à l'art par ce moyen-là.
Et elles n'avaient pas le droit de peindre les hommes nus, comme c'est le cas dans le film.
C'est totalement vrai. C'était immoral de peindre un homme nu. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'école non plus pour les femmes. Bon, déjà, elles ne doivent pas être peintres. Et en plus, pourquoi créer des écoles puisqu'elles ne doivent pas être peintres? Donc ensuite, au moment où elles ont un peu d'émancipation, comme au XVIIIe siècle en France, parce qu'il y a eu d'autres. C'est très sérieux ce que je raconte, mais l'émancipation a eu lieu aussi avant.
Assumer, c'est intéressant. Allez-y.
À la Renaissance pour certaines femmes, hein, mais au XVIIIe siècle en France, au moment du siècle des Lumières, donc des philosophes, là, il y a eu un moment où les femmes pouvaient revendiquer une égalité vis-à-vis des hommes. Et c'est vrai qu'elles ont pu aller à l'Académie de peinture et de sculpture. Okay. Mais, y entrer. Mais ouais. Ça ne voulait pas dire qu'elles avaient le droit de dessiner encore d'après le nu masculin, comme ces messieurs. Il y avait encore une séparation.
Quels sont les noms marquants artistes peintres féminines. Je pense, je pense à Frida Kahlo. Non, mais est-ce qu'il y en a tant que ça? Est-ce qu'il y a justement parce que
non, parce
aujourd'hui
que
avec le recul,
justement, il n'y en a pas tant que ça. Quand on veut évoquer des femmes peintres, il n'y a pas beaucoup de noms qui viennent tout de suite à l'esprit. C'est ça qui est vraiment triste. On a été dans nos livres d'histoire de l'art.
Un nom qui vous vient, Céline?
Bien sûr, Berthe Morisot, Elisabeth Vigée Lebrun, Artemisia Gentileschi, Rosalba Carriera, Angelica Kaufmann, Marie Cassatt. Voilà. Moi, on peut y aller. Hein.
Les sujets la passionnent déjà.
Je suis impressionné. Alors, est-ce que justement, il y a dans votre film des toiles que vous avez cherché à reconstituer dans la situation, la lumière, le cadre?
Vous voulez alors
des caméos de peinture que vous avez voulu glisser?
Alors non, en fait, même avec la chef opératrice, on se disait bon, les gens vont nous dire que les tables, que c'est inspiré de peinture, mais on va surtout essayer de s'inspirer de l'idée du peintre, c'est-à-dire le cinéma, c'est un cadre, ça c'est projeté sur une toile, et c'est la direction de lumière, un personnage, donc c'est les mêmes choix, on fait les mêmes choix que les choix du peintre, et on choisit la beauté.
Il y a des couleurs.
On choisit la beauté, bien sûr, oui, mais
ne serait-ce que les boiseries qui sont dans la pièce, dans l'atelier, l'ambiance, les couleurs qu'il y a dans la cuisine, la manière de servir le pot, enfin on les voit, les toiles. Chaque fois je me dis, si seulement j'avais la culture de reconnaître tel ou tel tableau, je suis sûr qu'il y a des références.
Fou. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça vous évoque la peinture sans
même les champs, même les herbes hautes
à Miyazaki, vous voyez, par exemple. Et on pouvait penser à d'autres références qu'à de la peinture, en réalité. On s'est vraiment posé la question de la peinture sur comment filmer la peinture, comment filmer quelqu'un au travail. C'était surtout à ce moment-là. Et on a pensé à Corot, qui était un paysagiste, mais qui a fait quelques portraits de femmes dans la nature, et d'où la lumière avait l'air de sortir des personnages. On s'est plutôt posé ces questions-là.
Pour en revenir aux femmes peintres que vous avez, entre guillemets, étudiées, est-ce qu'elles ont des points communs dans leur parcours, ces femmes, justement?
Comme je disais, souvent, un père avant. Donc, avant elle. C'est assez rare qu'elle soit sortie comme ça d'elle-même. Berthe Morisot, c'est autre chose. Elle est d'une famille de la haute bourgeoisie. Elle reçoit une éducation où il est normal qu'une jeune femme apprenne à dessiner, soit musicienne, etc. Donc ça fait partie de...
L'origine sociale joue aussi.
L'origine sociale joue énormément.
Dans les moyens, dans la capacité à s'ouvrir.
Soit on a un père peintre, soit on a des parents assez fortunés qui peuvent nous permettre de suivre des cours. Donc Berthe Morisot a suivi des cours avec Corot, donc elle a quand même eu un super prof pour le paysage. Elle était quand même très très bien guidée. Après, les femmes, bien souvent, arrêtent de peindre quand elles se marient.
Voilà, justement, est-ce qu'elles étaient mariées, ces femmes peintres, le temps de leur exercice? Ça donne pas cette sensation-là? Comme si c'était impossible pour un homme d'avoir à la fois une épouse qui exerce le métier de peintre.
Il faut trouver l'époux qui va avec, en fait. Ou alors on se marie pas.
C'est pas plus mal.
C'est un peu ça, en fait.
Ça reste un problème très contemporain. Trouver l'époux qui va avec.
Ou pas.
Pendant des années, les femmes devaient, si elles voulaient avoir accès à la peinture, faire leur métier, il fallait qu'elles restent modestes, discrètes, parce qu'il ne fallait pas que leur talent fasse de l'ombre aux professionnels, les autres, enfin les hommes.
Est-ce que dans le geste très féminin, justement, de la peinture, dans cette caresse de la toile, est-ce qu'on distingue, en voyant une œuvre, si elle est peinte par une main de femme ou une main d'homme?
Alors, justement, les peintres hommes, parfois, se permettent de dire « Oh, cet homme-là, il peint un peu comme une femme » ou « Cette femme, elle a un geste viril ».
Oh, c'est un compliment.
Je pense que c'est complètement faux. Enfin, voilà, le geste, on a une puissance dans son geste, qu'on soit femme ou homme. Et donc, je pense encore à Berthe Morisot, parce qu'il y a une expo en ce moment qui va bientôt se terminer à Orsay, et sur laquelle j'ai aussi écrit un livre. Mais...
Donc, il n'y a pas une peinture genrée?
Moi, je trouve pas. Enfin, voilà, dans la touche, Berthe Morisot, elle a une touche tellement large et diffuse et qui laisse tellement de place au flou, à l'incertitude, à l'inachevé. Ça, Monet, là aussi, un petit peu plus tard. Enfin, donc, voilà. Je pense que là, je vous ai donné la réponse.
Ouais. C'est gentil. Les femmes peintres parues aux éditions Palette en 2018. Merci Sandrine Andrews d'être éclairer.
Ça va pas éclairer du tout. Le mercredi, là, la rue est totale. Ah ouais. Et encore, elle n'a pas trop fait de faute.
Vivement le week-end. Hein.
Ah oui.
C'est donc.
Bon.
Ok. Deux. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Les scientifiques australiens, vous me dites, ont fait une découverte surprenante.
Oui, ils ont observé un cadavre se décomposer par le Parti Socialiste, un vrai cadavre, hein, pendant 17 mois. Et surprise, ils ont constaté que le corps, après la la mort, cet instant atroce qui signifie qu'on ne verra pas la fin de Plus belle la vie, continuait de bouger. Certains cadavres font même de la Zumba sur les 4 scènes avec Anne Hidalgo.
Non, si. Bon, ok, on en parle après les infos de midi. Avec Léa Cadeau-Boudadi, Daniel Morin,
Jean-Guillaume
Villa, Tanguy Passureau, Guillaume Bim et nos invités Noémie Merlant et Céline Sciamma. Avec ce film qui sort aujourd'hui, que vous devez absolument voir, alors, n'y allez pas immédiatement, laissez le désir monter. Laissez le désir monter.
Allez-y tout de suite.
Pas trop longtemps quand même. Non,
voilà. Attends, à 14h, laisez le désir monter à 14h, allez-y.
Il y a un truc dont on n'a pas parlé, il n'y a pas une question d'Oscar qui est dans les tuyaux.
Pré-sélectionné.
Pour représenter la France aux Oscars, c'est
ouais.
Ça se passe comment? Racontez-nous.
Bah, bien,
on saura quand?
On saura vendredi.
Ok.
Et on vous appelle quoi
au milieu.
Vous vous appelle, ce sera l'heure du direct, je vous appelle.
Vous n'êtes pas
vous
en train de demander
détaché.
Mon numéro. Et donc, vendredi, il y a combien de films entre guillemets en compétition pour représenter la France?
On est 3.
D'accord.
Ouais.
Et cette, c'est une importance, j'imagine, que c'est quelque chose qui bouleverse une carrière de représenter son pays. Déjà d'être aux Oscars, vous l'avez déjà été. Dans votre...
J'y étais effectivement avec ma vie de courgette, ouais.
Bah, c'est le titre, hein, je précise.
Oui. Ouais.
C'est pas un documentaire. Hein.
C'est pas possible. Désolée, ah, Céline, je suis vraiment confuse.
Je fais comme si les gens se connaissaient ce film, mais pas du tout. Il y a juste 800 000 personnes qui l'ont vu.
Non,
mais vous en aviez si bien parlé.
Ouais, c'est gentil.
Ici,
on avait adoré. On avait adoré.
Un texte de Gilles Paris.
Mm. Bon, en tout cas, les Oscars, ça change la vie si on y va, si on va au bout. Ouais. Il y a quand même beaucoup de pays qui proposent, tous les pays proposent un film. Donc, la route est longue.
Et en attendant les Oscars, il faut aller au cinéma aussi, parce que non seulement c'est un film merveilleux qui fait du bien, moi qui m'a fait énormément de bien.
Ah, moi aussi m'a fait du bien.
Et en plus, en ce moment, il y a une opération, le cinéma a du cœur. Jusqu'au 24 septembre, dès que vous achetez une place de cinéma, il y a un repas qui sera distribué au bénéfice des Restos du cœur.
Formidable. Pour nous,
bah, voilà.
Formidable. Raison, non, raison de plus.
D'y aller.
Ouais, raison de plus.
Absolument. On a dit que c'était un film France Inter ou pas?
Alors, si j'avais su, on l'aurait pas fait. Mais t'es sûr?
Non, mais je vois la tonnière des films inter qui me regarde depuis tout à l'heure et qui me fait signe qu'elle va me couper la gorge si on ne dit pas.
Donc, ah d'accord.
Voilà, c'est fait.
Tu t'es dit, mais sincèrement, pardon de le dire aussi crûment, ça ne change en rien l'envie que nous avions d'en parler et le bien qu'on en dit.
On savait même pas.
À part une petite enveloppe.
Enfin, ça pas.
Bah non, on a eu l'enveloppe. Regarde, elle est vide. C'est ridicule ce qui se passe. Voici Tanguy Passureau. Tanguy, dans La joie et la bonne humeur, voulait nous parler de la mort.
Oui, j'ai conscience que je plombe l'ambiance, tel non, l'Allemand qui en août déboule sur une plage nudiste en doudoune 3/4. Mais à 45 ans, il est temps que j'assume ce que je suis, un homme aussi peu fait pour le bonheur qu'Alain Souchon pour les Frank Couples. Je suis ce garçon qui, dans les booms, quand tout le monde chantait Bamos à la Playa, demandait au DJ de passer Regret, le duo Mylène Farmer, Jean-Louis Murat. Je suis ce jeune qui a aimé Kurt Cobain de Nirvana, sans savoir que 25 ans plus tard, la vie mettrait sur mon chemin Daniel Morin, qui a le même look. Je suis cet adulte qui, à Clairefontaine, s'est moyennement éclaté parce que les soirs de finale de Coupe du Monde. Je regarde l'épisode des Racines et des Ailes, intitulé Terre et Mer, les deux visages des Charentes, juste pour les yeux de Carole Gessler, qui sont aussi bleus que le cul d'un dauphin. Alors, je vois bien que mes collègues humoristes sont joyeux, Guillermo Guise par exemple, et Guilleret, on le serait à moins, si j'avais son âge, son succès et son corps, je ferais jouir la moitié de l'Île-de-France. Ce qu'il fait d'ailleurs, si j'en crois les vidéos, qui tournent sur Snapchat. Mais je ne suis que Pastureau, un celte neurasthénique comme tant d'autres, et donc, je parle de la mort. Alors tout d'abord, pour les gens qui nous écouteraient de leur vivant, qu'est-ce que la mort? Eh bien, c'est cette étape ultime où, alors que ses proches sont réunis autour du mourant, celui-ci pousse un dernier soupir. D'où l'importance d'avoir l'haleine fraîche, si on veut laisser un bon souvenir. Hein, évitez le café-club parce que votre famille va vous retirer les fils pour que vous partiez plus vite. Ensuite, bah, il y a soit rien pour les athées, soit le paradis pour les croyants qui ont été sages. Là-haut, vous retrouvez Ariane du Club Dorothée, Corbier du Club Dorothée et Honoré de Balzac, à qui vous dites « je te connais pas, toi t'étais sur la 2 ». Soit l'enfer pour les croyants qui ont été méchants. Alors l'enfer, c'est un poil plus frais la Terre post-réchauffement climatique, un espace clos où passe en boucle l'interview de François Bayrou par Jean-Pierre Elkabbach sur Public Sénat, où les deux s'étaient endormis. Mais ça, c'est pour notre âme, qui est légère, hein, contrairement à nos corps, rendus lourds par l'offre 4 croissants achetés le 5e gratuit de la brioche dorée. Nos corps, eux, se décomposent, plus ou moins lentement, puisque ce sont les vers qui les bouffent. Et autant vous leur servez José Bové à sa mort. Ils le mangent volontiers, parce que c'est le seul homme à être labellisé bio, les autres, ce sont des vaches. Hein. Autant pour un ver mangé par exemple Meg Ryan, ça revient pour nous à attaquer le plateau repas en plastique de la cantoche parce qu'on n'a plus de blé pour se payer les lasagnes. Oh. Bref, nos corps se décomposent à notre mort. Sauf Michel Houellebecq qui a débuté sa décomposition alors qu'il est en vie. Hein. Et là, des scientifiques australiens se sont dit, tiens, observons un cadavre pendant 17 mois histoire de voir ce qui se passe. Ce sont des gens qui n'avaient jusqu'à présent aucun hobby. Et ils ont réalisé, aussi stupéfait qu'Elie Semoun si David Douillet lui proposait un combat dans l'octogone, que le corps, un an après la mort, Nagui continue de bouger.
Ok, mais ça change quoi tout ça?
Mais tout, Nagui, aux gens sains, par exemple, qui me conseillent de me mettre au sport, je peux répondre que dalle, les losers, je bougerai quand je serai mort et je reste glandé dans mon sofa. Ces scientifiques, rendez-vous compte, ont constaté que les bras d'un mort peuvent se lever puis se rabaisser. Certains se sont mis à voler. Hein, la tête qu'ont fait les pigeons quand ils ont vu que Papy René lui aussi pouvait faire ses besoins sur les passants à 30 mètres de haut au niveau de l'ego de Ségolène Royal. C'est là que je dis qu'on a inhumé Michael Jackson un peu tôt. Techniquement, il pouvait la faire, la tournée This Is It. Alors, à quoi sont dus ces mouvements du corps? Eh bien, d'après l'équipe, aux ligaments qui sèchent, donc ça bouge. Regardez Régine, les dernières années où elle gérait sa boîte, elle faisait de la breakdance. Hasard, non, c'est juste qu'elle commençait à sécher. En plus, les chercheurs australiens disent qu'il faut ajouter la présence d'insectes dans le corps, parce qu'à terme, on devient une sorte de compost. Hein. Je vais peut-être l'avoir, mon prime de silence, ça pousse. Plus les gaz, parce qu'il en reste, alors qu'on en relâche déjà le jour de sa mort. Une existence entière placée sous le signe de la dignité pour finir comme ça, autant vivre comme Patrick Sébastien. Bref, tout ça fait que les cadavres remuent. Alors en vérité, bah, c'est surtout pour les scènes de crime hein, que la découverte sera utile, parce que jusqu'à présent, bon, on trouvait un Maccabée, on traçait à la craie autour de lui, sans penser à la femme de ménage qui derrière doit nettoyer le parquet, c'est du mépris de classe. Donc on avait un mort, mettons, à côté d'un lecteur CD contenant un album de Zaz, les enquêteurs disaient « Ok, le cœur n'a pas tenu, logique. » Mais si on prend en compte le fait que ses bras sont venus se coller à son corps après la mort, on se dit que si ça se trouve, il grouvait les bras en l'air, et que c'est au moment où, par erreur, il a mis France Musique qui passait du Brahms, contraste trop aigu, qu'il a clamsé. Hein, mais ça va tout changer, le corps de Ben Laden que les Américains ont jeté à l'eau. On a de la chance qu'après sa mort, il soit pas mis à nager, parce qu'aussi bien on le retrouvait à l'île d'Oléron, bah ça vous cache les vacances. Hein, on paye pas 3000 euros les 15 jours pour que les gosses jouent avec un islamiste décédé. Déjà, quand ils tripotent des méduses mortes, on trouve pas ça top. Bref, à tous ceux qui, comme moi, en soirée, ne dansent pas parce qu'ils ont le sens du rythme d'une agence de la Matmut, dites-vous ceci, là, vous êtes nul. Mais après votre mort, vous serez peut-être le roi de la piste.
Ça va grouver.
Merci pour l'invitation.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Vous avez voulu, Céline Sciamma, dans votre film, mettre donc cette montée du désir, en avant aussi cette libération de la femme qui s'approprie son corps, mais qui aussi occupe un métier, on l'a entendu tout à l'heure, trop rare chez les femmes. C'était une sorte d'âge d'or et du portrait et de la présence féminine à la toile. Justement, la peinture, vous l'avez filmée. Vous êtes longtemps posé la question de savoir comment filmer la naissance d'une toile. Et qui allait peindre, surtout ?
Oui, et d'abord c'était ça, qui allait peindre. Et j'ai rencontré le travail d'une jeune femme qui s'appelle Hélène Delmer, j'ai rencontré son travail sur Instagram, et je suis allée la contacter, et c'est avec elle ensuite que j'ai vu pour la première fois quelqu'un peindre, en fait. Parce que jusqu'ici j'avais vu des œuvres achevées, j'ai commencé à regarder comment filmer ça, quoi. Et donc ça a été, voilà, on l'a observé toute, hein, la chef opératrice, moi-même, Noémie, pour pouvoir interpréter son personnage. Et on a inventé ensemble cette peintre. Ouais.
Alors justement, Noémie Merland, comment vous avez travaillé le rôle, ce personnage-là? Vous l'avez travaillé comme une artiste, par le prisme de l'artiste peintre ou par celui de l'amoureuse? Il n'y a pas la réponse dans la question, regardez bien. Oui. Mais il y a un choix.
Non,
c'est un piège.
La préparation avant le tournage, là j'ai vraiment recherché avec Hélène Delmer et Céline comment appréhender le regard du peintre, comment l'incarner. Parce que quand je regardais Hélène, et c'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit, c'est que le regard, c'est un regard très particulier. Et un regard perçant, un regard presque mystique parfois, un regard qui traverse tout, qui voit
oui,
tout.
Et puis par moments, le visage peut être aussi crispé, peut être...
Très concentré,
c'est
oui.
C'est ça, c'est ça.
Et donc il fallait que je chope ce regard et le geste du peintre, les gestes du peintre, le rythme du peintre entre les allées et venues entre le sujet et la toile. Et puis c'était une danse aussi à trouver. Trois pas en avant vers la toile, quatre pas en arrière, les accélérations. Donc j'ai cherché cette danse et ensuite j'ai rencontré Adèle sur le casting, mais ensemble pendant le tournage, on a construit notre relation. On n'avait pas du tout travaillé avant, toutes les deux.
Oui, mais alors comment vous avez travaillé l'évolution de votre regard, qui au début est un regard presque technique, pragmatique, vous analysez pour peindre, et au fur et à mesure, votre regard change puisqu'il devient amoureux?
Bah, petit à petit, on laisse le trouble s'installer, et moi-même, avec Adèle, à chaque fois, elle me proposait aussi une nouvelle manière, elle jouait beaucoup, elle m'envoyait un regard différent, inattendu, et donc à chaque fois, il y a une manière de répondre aux propositions de chacune, en fait. Et donc oui, au départ, le personnage, il est construit plutôt dans une retenue, comme son portrait, son premier portrait qu'elle fait. Elle respecte des règles, des conventions, des idées, comme elle dit. Et petit à petit, bah le corset devient moins serré, les sourires sont de plus en plus présents.
Vous réussissez même à faire rire Valéria Golino à un moment, c'est pour vous dire. Mais en fait, elle joue votre personnage. Noémie Merlan, c'est vous.
Noémie Merlan, c'est moi, vous trouvez? Non, je pense que ce personnage, c'est nous. En tout cas, oui, ça c'est sûr, ce personnage, c'est nous.
On pose souvent cette question sur la façon dont est conçu un film et l'ordre des plans tournés. Je trouve que c'est d'autant plus problématique pour une histoire comme celle-ci où on a une montée du désir, où on doit d'un plan à l'autre ne pas montrer que on a perdu le fil. Comment est-ce qu'on s'y prend? Ça, je trouve ça hyper compliqué.
Moi, je pense que c'est pas si compliqué en fait. Ouais. On sait très bien à chaque fois. On est concentré sur un moment présent. Donc à la limite, si on le faisait chronologiquement, on pourrait considérer que c'est fait, que les choses sont faites, qu'elles vont se faire.
Ouais.
Là, on a tourné tous les extérieurs d'abord, donc toute la Bretagne, la plage, et il se trouve que elles vivent toute leur histoire sur ces plages aussi, et qu'on est passé de bonjour au grand amour du premier au deuxième jour de tournage. Et au contraire, ça met des niveaux de sentimentalité, ça nous permet de nous concentrer vraiment purement sur le présent, et c'est la règle du jeu du cinéma, et on sait bien la jouer, cette règle-là.
Ouais.
Allez, des questions sur la culture, ce qui se passe également. Il y a votre film qui sort aujourd'hui, mais il y a plein de choses, comme par exemple la particularité de la photo de Cecilia Bartoli sur son nouvel album. Qu'est-ce qu'elle...
En homme, elle a une barbe.
Exactement. Ouais. Elle est barbue.
C'est sans trucage.
Pour son nouvel album de lyrique, c'est ça, elle s'est mise en...
Exactement, et diva italienne a semé le trouble en ayant cette fausse barbe, contrairement à ce que dit Daniel Morin avec la sienne, pour rendre hommage à Farnelli, un célèbre castrat du XVIIIe siècle justement. Pierce Brosnan, parlons de lui. L'ex James Bond vient d'annoncer qu'il aimerait que le remplaçant de Daniel Craig, qui annonçait que le prochain serait son dernier, soit exactement.
Femme, ouais. C'est pas déjà prévu comme ça, non?
Si, c'est prévu. C'est fait.
Ouais.
Ah, c'est fait?
Ouais.
Donc il prend aucun risque en disant ça.
C'est un vieux James Bond, lui.
Bon, une planche de... Vous faites un carton plein. Une planche de Tintin est mise en vente aux enchères aujourd'hui, 18 septembre. Il pourrait atteindre 400 000 euros. Quelle est sa particularité?
Il y a du sang d'Hergé.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, vous êtes étonné que je recommande un truc et que je sois pas
non,
si
belle. Mais ça va, il est belle. Non, mais
t'es belle, j'ai lu des trucs dans ma vie aussi, dans des journaux.
Hergé, quoi, genre.
Ouais.
C'est fou ça, ouais.
Il y a du sang d'Hergé.
Ouais. Exactement, il s'est blessé. Vous avez une collectionnite, vous gardez des objets, vous gardez vos scénars par exemple. Est-ce que vous gardez le scénario de la script avec les polas agrafés dessus et tout ça?
Ouais, je me crée des souvenirs, ouais. J'archive pas mal effectivement.
Qu'avez-vous gardé du tournage, Noémie Merlan?
Qu'est-ce que j'ai gardé?
Une toile ou une robe? Ou un clap?
Ah non, les toiles, on peut peut-être en garder, je crois, c'est ça? Non?
C'est devant
moi, j'en
nous.
Veux bien une.
Hein. Ah voilà.
On les expose à partir de jeudi dans une galerie rue Charlot.
Très bien, très bien.
Jours,
quel parasite, à part évidemment Guillermo Guise, quel parasite vient de toucher quasiment 2 millions de personnes?
C'est une mouche?
Non.
Gastro?
Non.
Un parasite, c'est un insecte, c'est quoi?
Non.
C'est une bactérie.
Ouais,
un chanteur.
2 millions de personnes touchées par.
La gastro.
Non, le film.
Ouais, la Palme d'Or.
Ouais. Succès d'estime primé à Cannes, mais succès commercial aussi. Ça a l'air rare, ça a l'air étonnant comme ça qu'il y ait à la fois les professionnels de la profession et le public qui se mettent d'accord sur un même goût. C'est déjà arrivé. Mais...
Bah, dans ces proportions-là, en tout cas, c'est assez fou. Ouais. 2 millions, c'est dingue. C'est la France, ça.
C'est-à-dire?
Bah non, mais il y a qu'ici où Bong Joon-ho peut faire des scores aussi hauts, et chez lui aussi d'ailleurs, mais parce que ça ressemble beaucoup au modèle français là-bas d'ailleurs. Ils sont inspirés de nous. On inspire des gens.
Alors lui, il inspire personne. C'est Daniel Morin. Ah.
La sympathie du gars.
Naturel.
J'imagine. Portrait de la jeune fille en feu, quelle beauté. Quelle grâce. J'ai jamais rien vu d'aussi émouvant depuis Camping 3. C'est beau comme une chronique de Guillermo, mais en moins sale. Et là, contrairement à Guillermo, on comprend quand les phrases sont dites. Alors Nagui en a parlé quasiment avec des larmes aux yeux et des sanglots dans la voix. Les images sont sublimes. Cette histoire de femme qui commence par un mensonge, se poursuit par une espèce de danse de séduction qui nous entraîne dans un tourbillon de fascination mutuelle. Et tout ça pourquoi ? Pour nous emmener vers une passion aussi éblouissante qu'incandescente à base de « je ne peux pas vivre sans toi, ton absence est comme le vent glacé de Sibérie qui détruit mon corps et abîme la pointe de mes cheveux » ou tout ça pour accoucher d'une amitié franche et cordiale à base de « j'aime bien passer du temps avec toi, faudrait qu'un de ces jours on aille boire un pot ». En tout cas, c'est très beau et forcément, ça m'a très fortement rappelé tout ce que je n'ai jamais connu. C'est beau, mais l'inconfort dont parfois souffrent les héroïnes est d'une cruauté. Tenez, prenez le début du film. Quand Marianne est envoyée pour peindre Héloïse, elle prend le bateau pour rejoindre la presqu'île de Quiberon. Et quand le marin descend avec elle du rafio, eh bien, il pose tout le barda de Marianne sur la plage et il se casse. La pauvre, les pieds mouillés et la base de la robe pleine de sable, elle doit se fader toute la montée qui mène au château chargée comme une vieille mule. C'est rageant quand même, quel déconfort. La prochaine fois, surtout pour Quiberon, pour transporter vos affaires, faites appel à de vrais professionnels. Faites appel aux déménageurs bretons. Les déménageurs bretons, c'est 145 agences partout en France. Un service de très grande qualité qui s'occupe de vos déménagements, gros ou petits, de l'emballage à la livraison. Faire confiance aux déménageurs bretons, c'est l'assurance de ne plus avoir affaire à un vieux bigoudin fainéant qui vous fera une robe voisine, à savoir vous laisser seul sur le sable. Vous auriez pu y penser, Céline. Enfin, maintenant, vous le savez, c'est ça qui compte. Ah bah tiens, puisqu'on parle de la plage, la Bretagne, c'est beau, c'est clair. Mais mon Dieu, que la mer a l'air froide! Quand la pauvre Héloïse va se baigner, on a froid pour elle. J'ai regardé la scène en claquant des dents. Bon, vous tourniez là-bas, c'est pratique d'utiliser l'océan qui va autour. Mais une fois encore, pensez au confort de vos artistes, Céline. Pour une plage aussi belle qu'accueillante dont les eaux ne transformeront pas vos orteils en mini Mr. Freeze, pensez soleil! Pensez Club Med. Le Club Med, c'est des dizaines de destinations soleil où, en compagnie d'une équipe géo dévouée, vous vous trempez dans une mer chaude, sourire aux lèvres, en attendant le cours d'aquagym. Les plages du Club Med, c'est comme les plages de la presqu'île de Quiberon, mais en plus chaud, beaucoup plus chaud. C'est une idée de confort, Céline, c'est tout. Même si je veux bien reconnaître que le tournage de votre film dans un village du Club Med aurait donné une ambiance légèrement différente de ce que vous comptiez faire, peut-être. Enfin, moi, je pense au confort des comédiennes, avant tout. Parce que c'est vrai que votre film est beau, c'est quand même très inconfortable, parfois. Prenez la scène où Marianne descend à la cuisine pour manger un morceau. Bon, bah, le choix n'est pas hyper varié. Hein. Tout ce qu'elle trouve, c'est un bout de fromage sec qu'elle déguste avec un pauvre quignon de pain. Bonjour, le festin! Non, là encore, vous auriez pu faire un petit effort. Hein. Et quand je dis petit, je veux dire tout petit. Tout petit, tellement simple, en tapotant sur pizzahut.fr. Pizzahut, c'est tout un univers aussi varié que gourmand qui, en 30 minutes, apporte chez vous, tout chaud, de quoi régaler les plus affamés. Tenez, en ce moment, pour les grosses faims, faites-vous plaisir avec le extra menu. Avec en entrée, une pizza médium et deux boissons. Imaginez, chez vous, en 30 minutes, un délicieux pain à l'ail suivi d'une pepperoni lover premium cheesy, c'est-à-dire avec du fromage dans la croûte. C'est autre chose qu'un bout de claco seco sur une tranche de parassis. Pizza Hut, c'est la solution la plus rapide et la plus variée.
Pizza Hut, il y a tout ça dans nos pizzas.
Non, c'est bien vrai, monsieur, le choix est énorme. Bon ben voilà, c'est des petits gestes, des petites attentions qui font plaisir à tout le monde et qui sont bougrement réconfortantes sur un tournage où ça caille. Sinon, confort des comédiennes mis à part, bien sûr, c'est le plus beau film que j'ai vu cette semaine, je peux vous le dire.
T'en as vu d'autres ?
Non, mais comme quoi, j'ai fait le bon choix.
Merci.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Portrait de la jeune fille en feu, ça sort aujourd'hui au cinéma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Louana Bajrami et Valéria Golino, entre autres. Il y a évidemment de temps en temps un garçon qui passe dans le décor, mais tel n'est pas le propos. Peu importe, ce sont des êtres humains qui jouent et qui jouent bien, des histoires d'amour, la montée du désir, la naissance d'une œuvre d'art et la naissance d'une passion, les deux pouvant aller ensemble et tout ça magistralement joué. Je le redis, magistralement filmé, on a aimé ce film, Leïla.
Et ouais, c'est hyper audacieux. C'est une histoire d'amour entre deux femmes. C'est un film en costume au 18e siècle. Enfin, vraiment, si vous ne bougez pas pour aller au cinéma, ça ne sert à rien, en vrai, d'avoir des réalisatrices comme vous et aussi toute une structure industrielle et économique qui soutient aussi la création de films comme ça. Ça aussi qu'il faut dire, je crois.
Qu'est-ce que Tanguy Pastureau ? Tiens, je vais commencer par toi, parce que généralement, quand je commence par les autres, tu dis oui, moi pareil. Qu'est-ce que tu as retenu de cette émission
et... Décidément, il se produit que des belles choses venant de Bretagne. Et donc, voilà.
C'est ça, c'est le breton qui parle. Guillaume Audise, qu'est-ce que tu as retenu ?
Moi, je vais laisser monter le désir.
Tom Villa.
Qu'il n'y a que deux chansons dans le film, donc c'est formidable pour le film. Par contre, pour les distributeurs de bandes originales, c'est un peu galère.
Daniel Morin.
Bah, par l'inconfort, le traitement vraiment dégradant des comédiennes, moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Je ne regrette pas une seconde de l'avoir vu.
Leïla.
Encore, à nouveau, bah, je dis encore, okay. Aller au cinéma pour voir ce film Portrait de la jeune fille en feu. Et franchement, tout le meilleur pour la suite. Et même si c'est pas les Oscars, on s'en fout, mais il faut vraiment que les gens aillent voir ce film. Et puis en plus, je le rappelle, aujourd'hui, une place achetée, c'est un repas distribué. Donc vraiment, si là, c'est l'occasion d'y aller.
Noémie Merlant, alors vous êtes formidable.
Oui.
Formidable, sincèrement. Formidable. Puis on vous suit dans votre carrière aussi. Vous êtes formidable. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre dire d'une personne qui sort d'une salle après avoir vu ce portrait de la jeune fille en feu ?
Eh ben qu'il a vibré comme nous on a pu vibrer en le faisant, quoi.
Céline, Siama, vous aimeriez entendre quoi ?
J'aimerais entendre que c'était des sensations nouvelles, que c'était nouveau, que ça a été palpitant à vivre, que c'était une expérience.
Alors, soit on dit c'est du jamais vu, soit on dit ça ressemble à rien. Autant dire que c'est du jamais
ouais,
vu.
Ouais, ouais, ça peut être mal pris.
Ouais, c'est ça. Ça ressemble à rien. Ouais. Des excuses peut-être à présenter, Daniel.
Bien sûr. Déjà, désolé pour Stéphane Thébaud, dont la carrière, le talent d'animateur, la famille et même le physique, on peut le dire, ont été moqués par Nagui et Céline Sciamma. Stéphane Thébaud, Céline Sciamma. Bizarre, rien qu'en le disant, c'est un duo tellement improbable. Joli scoop de la bande originale. Désolé pour Noémie Merlan et Céline Sciamma qui avaient bêtement prévu ce matin de répondre à des questions. Ben non. Ici, c'est la bande originale. L'émission, on répond à des questions, c'est chez Trapnard. En même temps, c'est tellement années 80. Bisous, Augustin. Désolé pour les 39 comédiennes qui, on l'a appris ce matin, ont été recalées au casting du portrait de la jeune fille en feu. Alors,
on va mettre les noms sur le site.
Pour vous consoler, mesdemoiselles, Guillermo organise une séance de rattrapage cet après-midi pour son premier court-métrage. Rendez-vous au rayon viande de Radio France. Attention, c'est pas le titre. C'est le lieu de rendez-vous. Allez-y nombreuses et en toute confiance.
Merci Noémie Merlant, merci. Céline Sciamma. Et encore bravo, Portrait d'une jeune fille en feu. C'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en tout cas au cinéma. Demain c'est Zep, on parlera sexe et que sexe, hein. C'est Happy Sex.
C'est ça.
Sa bande dessinée.
C'est pas la montée du désir, c'est direct.
Hein. Ah, c'est direct. Ouais, c'est interdit aux enfants, c'est que pour les adultes, c'est extrêmement drôle, c'est osé. Et ça sera demain dans la bande originale. C'est marrant, le titre, d'un coup, c'est autre chose quand on dit
on
ça.
On est en retard.
On est en retard, pardon. Ah, oui. Bonne journée, Philippe.
Quand même,
oui,
le portrait de la jeune fille en feu,
oui.
Ça a quelque chose à voir avec l'art pompier.
D'accord. C'est ça, j'ai un coup de barre là.
Bientôt.